Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental qui met en avant les pratiques et les acteurs du monde sportif sartois. Alors aujourd'hui nous serons avec l'équipe de basket féminine U18 du club JS Koulen ainsi que l'un de ses entraîneurs. L'équipe dispute en ce moment le championnat de France en deuxième division, en rencontre avec des jeunes sportifs déterminés. Puis on vous raconte l'expérience d'un sportif qui s'est donné un défi impensable, il s'appelle Fabrice Didier et il s'est lancé dans une course très particulière, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. En tout cas, un record est en jeu. On vous en dit plus dans quelques instants, mais tout de suite, on commence avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
De retour dans Sport en Sarthe, on parle à présent de basket féminin. C'est une belle année pour le club de basket du JS Koulen. Ses équipes féminines grimpent en flèche dans les championnats, notamment l'équipe U18, actuellement en championnat de France, en deuxième division. Et nous rencontrons une partie de l'équipe ainsi que leur entraîneur Romain Quette. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Toutes et tous.
Bonsoir.
Même. Alors parmi nous, il y a donc 6 joueuses, enfin... En fait, toutes les joueuses sont là, quasiment toutes. On entendra certaines au micro, donc Clara, Lassa, Zia, Naeva, Julie et Margot. Alors, est-ce qu'on peut présenter un peu votre équipe? Qu'est-ce qui fait sa force, en fait? Est-ce que vous voulez nous en parler un peu?
Alors du coup, on est une équipe, c'est vrai qu'on a la chance de se connaître depuis assez longtemps. On joue ensemble depuis, pour certaines, presque 5 à 6 ans. Du coup, c'est vrai que c'est tout ce qui est autour de la communication, de l'entente et tout, ça nous aide beaucoup sur le terrain.
Il y a une bonne synergie de groupe entre vous, du coup?
Oui, vraiment, parce que aussi, du coup, on passe toutes nos journées ensemble au lycée. Après, on se retrouve sur le terrain le soir au basket. Donc, on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble.
Ah oui, parce que vous êtes toutes dans le même lycée, en plus.
Oui.
Ah oui, d'accord. Et alors, c'est vital pour la compétition, ce fait d'être une équipe soudée. Sans ça, vous n'auriez pas les résultats que vous auriez, vous pensez?
Le fait d'être tous en groupe et d'avoir une grosse cohésion nous permet de gagner, alors que de gagner pas beaucoup de points, ça permet de faire la différence par rapport à d'autres équipes.
Et alors, Romain Quette, comment ça se passe, les entraînements avec cette équipe?
Alors, il faut savoir que les jeunes filles qui sont présentes sur le groupe U18, elles sont en section sportive. C'est-à-dire que ce sont des jeunes filles qui s'entraînent quotidiennement. Elles ont un entraînement par jour. Moi, je trouve que ce sont des filles qui ont énormément de mérite, puisque elles arrivent à concilier études et entraînement. Ça demande beaucoup de sacrifices pour des jeunes filles de leur âge. Et suite à ces entraînements, il y a les matchs le week-end. Certaines fois, on demande même à des joueuses de doubler, donc de jouer le samedi et le dimanche. Donc ça fait une charge de travail, en plus des études, assez importante. Donc personnellement, moi je leur tire mon coup de chapeau.
Oui, est-ce qu'on peut avoir votre témoignage? D'ailleurs, je m'adresse aux joueuses par rapport à ça, le fait de devoir combiner le sport et les études. Comme on entend votre entraîneur, ça doit être un rythme assez intense. Comment vous vous en sortez, en fait? Ça vous pose pas de problème, ça?
Franchement, ça va, on arrive à s'organiser. En fait, le principal, c'est l'organisation, je pense. Parce que le fait d'avoir les deux, je pense que c'est plutôt une chose, en tout cas pour ma part et je pense pour mes coéquipières, c'est une chose qui est plutôt assez agréable parce que ça nous permet justement de faire, de vraiment se donner à fond dans les deux domaines, que ce soit à l'école ou au basket, quoi.
Oui, parce que ça n'a pas d'impact sur vos résultats au lycée, cette double activité?
Pas tant que ça. On a la chance d'avoir un groupe où ça, on travaille assez bien à l'école. On essaie de s'entraider un peu toutes, vu qu'on est dans les mêmes classes, du coup. Donc, ça tourne plutôt bien.
Et alors, qu'est-ce qui vous motive à aller aux entraînements, à disputer les matchs, malgré peut-être l'épuisement, parfois?
Le fait de toujours avoir envie de gagner, d'aller toujours plus loin, de chercher toujours plus, je pense que ça nous motive vraiment.
Je pense que c'est plutôt un état d'esprit, en fait.
Tu voulais ajouter quelque chose, je crois.
En plus, avant tout, on n'est pas que des coéquipiers, on est des copines. Du coup, on prend du plaisir à jouer.
Oui, on revient sur cet esprit de groupe, cette cohésion, quoi. Alors, quels sont vos rôles respectifs dans les équipes? Enfin, dans l'équipe, pardon.
Moi, Naeva, je suis capitaine de l'équipe. Sur tout ce qui va être, par exemple, les matchs, je vais prendre en charge tout ce qui va être l'échauffement. Et puis après, c'est vrai que j'essaie de faire attention un peu, de toujours regarder les filles, comment elles sont, leur état d'esprit, si je vois qu'il y en a qui sont tristes ou pas, j'essaie de faire attention. Et après, oui, du coup, ça va être aussi... mon rôle, ça va être de communiquer avec les... de faire une passerelle un peu entre les joueuses et nos coachs.
Donc c'est un rôle à responsabilité un petit peu ?
C'est ça.
Et alors parmi vous, du coup, comment ça se compose en fait une équipe de basket ? Il y a des défenseuses, des attaquantes ?
Alors au basket, il y a 5 postes et on a chacune nos postes respectifs.
C'est ça, oui, du coup, on se retrouve chacune avec nos postes qui sont attribués par rapport à nos qualités. Si on va être plus. Souvent, c'est plutôt les petites shooteuses qui vont être poste 1, elles vont mener le jeu. Et puis après, on va retrouver plutôt les grandes intérieures qui vont jouer plus impactant dans la raquette.
Alors, vous êtes en ce moment engagé dans le championnat de France en deuxième division. Ça se présente bien pour le moment ?
Plutôt, on est à 4 victoires sur 5. Donc,
ah oui, donc c'est un beau palmarès.
Ouais, on est bien là.
Et alors combien de matchs... oui, tu voulais ajouter quelque chose, pardon.
On est première égalité du coup.
Ah oui, bah voilà, c'est très bien. Et alors combien de matchs est-ce qu'il vous reste actuellement ?
5.
Encore 5 matchs à disputer, oui. Donc vous êtes à mi-parcours, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Exactement.
Et alors est-ce qu'il y a des points particuliers que vous sentez devoir travailler peut-être pour vous améliorer encore ? Même si apparemment les résultats sont plutôt bons.
Ce serait ouais, peut-être la régularité sur tout le long du match, parce que c'est vrai qu'on a... On a souvent l'habitude de faire, par exemple, des bonnes entames de match et puis après de baisser un peu en régime à la reprise du deuxième quart ou de la mi-temps. Donc, on essaie de travailler sur ça, sur le fait d'être constant tout du long du match. Et puis, après, c'est tout, plein de petits aspects techniques qu'on travaille à l'entraînement tous les jours.
On a un profil de l'équipe, en plus, un petit peu atypique. C'est-à-dire qu'on a des joueuses de... petite taille, enfin on est très petit par rapport au reste des autres équipes.
C'est vrai qu'on a l'image des joueurs et joueuses de basket qui sont très grands.
Ah oui, on n'a pas de Victor Wembanyama dans notre équipe. Par contre, ça ne fait pas de nous une équipe qui se laisse faire. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup de courses. On court, c'est une équipe qui court beaucoup sur le terrain, qui met beaucoup d'énergie à défendre, qui met beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse dans son jeu en attaque. Ce qui fait que de temps en temps, on perd en niveau influx nerveux, en niveau concentration. Voilà.
Et alors Romain Quête, vous êtes entraîneur en formation professionnelle. Que vous apporte cette expérience au sein de l'équipe U18 féminine de JS Koulen ?
Ça m'apporte déjà en termes de l'expérience, déjà. Dans l'aspect anticipation, d'organisation, c'est-à-dire que les entraînements... On ne pose pas un entraînement comme ça, on travaille sur quelque chose qui va durer. On construit nos séances en fait en fonction des problématiques qu'on a, des ambitions qu'on a ou que les filles ont par exemple. Si elles souhaitent travailler un axe particulier dans leur jeu, on essaie de les amener à progresser sur ce plan-là. Pour les pousser à aller le plus haut possible.
Et alors, en tant qu'équipe, est-ce que vous envisagez donc la première place pour ce championnat dans lequel vous êtes engagé, actuellement à mi-parcours, première ex aequo ?
Tout d'abord, on prend match après match. Et après, je pense que oui, on espère finir première et pourquoi pas viser les Final Four. Mais...
Alors, qu'est-ce que c'est les Final Four ?
C'est les 4 premières... Qui de chaque poule qui se dispute pour être les premières de poule basse de 18 France.
D'accord, donc c'est là où se situe la vraie victoire en fait, quoi. Donc ça vous paraît pas inatteignable ça ?
Non, mais il va falloir travailler et être rigoureuse et régulière.
Et alors est-ce que l'équipe a déjà disputé des compétitions en première division ? Parce que là on parle d'un championnat en deuxième.
Alors l'an dernier j'étais déjà moi sur le groupe U18 avec certaines... qui sont autour de cette table. Et on a disputé la première phase l'an dernier en première division. Et là, on rencontre que des équipes, que des centres de formation. Donc, c'est vraiment les très, très, très gros clubs. On voit que c'est très compliqué pour nous. Hein. Nous, on existe, on a été un petit peu un ovni à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on joue contre des équipes qui sont beaucoup plus fortes que nous. Nous, notre place, elle est... Voilà, on existe en deuxième division parce que c'est plus notre place.
Parce qu'il n'y a pas de Victor Wembanyama dans l'équipe.
Pas encore.
Alors le prochain match, ce sera le 9 mars à Aunois. Comment est-ce que vous l'appréhendez ce match ?
Bah, on est assez. Bah, en fait, on essaie de rester concentré parce que du coup, c'est un match qui est loin, donc on part sur 2 jours. Donc c'est vrai qu'on a tout mis en place un peu pour pouvoir anticiper au mieux le match. Donc on sera directement sur place le samedi pour jouer le dimanche. Ça nous permettra d'avoir un bon sommeil. Et c'est normalement ce qui devrait nous permettre d'être plus efficaces sur le terrain parce que ça nous a déjà coûté sur notre seule défaite sur cette deuxième partie de saison.
C'est une équipe que vous avez déjà rencontrée ou pas ?
Oui, on les a gagnés en début de phase à Kulen, mais du coup là le match il est complètement différent à l'extérieur.
Alors pourquoi ça ?
Bah c'est, je pense, la route, la fatigue et les joueuses sont peut-être pas forcément les mêmes à domicile qu'à l'extérieur. On va forcément avec moins de joueuses à l'extérieur qu'on peut être à domicile.
Mmh. On est toujours dans de meilleures conditions à domicile en fait.
Oui, mmh. Avec Alors... le public, avec les supporters.
Ah oui, parce que ça joue ça aussi, le fait que le public soit avec vous, contre vous, c'est pas les mêmes conditions.
Oui.
Alors Romain Quette, les U18 sont-elles la seule équipe de basket à performer cette année dans le club des JS Kulen ?
Eh bien non, puisque moi j'ai la chance de pouvoir entraîner plusieurs équipes sur le club. Je suis également assistant sur l'équipe senior fille qui joue en pré-régional, en pré-national, pardon. Donc juste en dessous de la Nationale 3 féminine, et à l'heure actuelle on est deuxième et on espère bien que notre équipe Fagnon puisse remonter au niveau national à la rentrée prochaine.
Oui, donc cette équipe de seniors féminines pourrait atteindre en effet le NF3, c'est en fait le premier niveau national français. C'est un vrai enjeu pour le club JS Kulen ?
Oui, si on a un projet intéressant, ça permettra aux jeunes filles qui sont en championnat U18, de se dire, bah voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut m'intéresser après mes années U18. Je peux peut-être rester dans mon club de Kulen pour essayer de tutoyer encore un niveau national intéressant et pourquoi pas franchir encore des étapes. Si jamais on n'y arrive pas, bah malheureusement, voilà, on prend le risque que certaines filles puissent partir dans des clubs voisins ou même ailleurs parce que on n'aura pas le niveau qui sera intéressant pour elles.
Alors récemment, on a beaucoup parlé de la victoire du MSB à la Leaders Cup, mais il est tout aussi important de mettre en avant les équipes féminines. Est-ce qu'il vous semble que le sport féminin n'est pas encore suffisamment pris en compte ? Et je m'adresse à vous toutes et tous.
Bah, c'est vrai que nous, par exemple, on a l'habitude de suivre un peu tout le championnat féminin. Et moi, par exemple, j'ai l'habitude de regarder l'équipe d'Angers parce que c'est à côté. Et rien que les matchs qui sont diffusés, c'est des matchs sur YouTube. Donc, la qualité n'est pas bonne. Ça ne nous permet pas vraiment de bien suivre les matchs, d'être dedans. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand je regarde, par exemple, un match du MSB et un match de l'équipe d'Angers, féminine. Et puis, vas-y.
Même dans les gymnases, du coup, si on va, par exemple, au MSB, par exemple, hier ou avant-hier contre MSB Cholet, le MSB est rempli. Alors que, par exemple, si on va à Angers pour, un match d'Eurocup ou un match super important, il n'y aura même pas la moitié de la salle de rempli. C'est beaucoup moins médiatisé.
On constate quand même une certaine avancée. Par exemple, il y a quelques jours, il y a eu le match, alors c'était du football, mais il y a eu le match France contre Irlande. Irlande ou Islande, j'ai un doute.
Islande,
ouais, c'est bien ce qui me semblait, qui pour le coup a suscité pas mal d'engouement. Donc il y a quand même de l'espoir, vous pensez, les choses sont en train d'avancer ?
En tout cas, il ne faut pas lâcher l'affaire. Enfin, je trouve qu'en Sarthe, on doit avoir de l'ambition. Notamment les plus jeunes joueuses qui se mettent au basket. On doit avoir de l'ambition. C'est important pour le basket féminin que la Sarthe, et pourquoi pas les JS Kulen, puissent avoir un club à un niveau, pourquoi pas N2 d'ici quelques années, voire N1 pour montrer la voie aux Sartoises et dire aux plus jeunes, y a un club d'un bon niveau en Sarthe, chez les filles, et pourquoi pas encore envisager dans quelques années un petit peu plus haut.
Et les sportifs du JS Kulen imposent d'ailleurs leur marque. Iliana Rupert et Alexia Chéry-Chartereau, médaillées d'argent au JO, proviennent de vos rangs. Et l'artiste Lapin Blanc, notamment, leur a rendu hommage par des fresques à Kulen. C'est une vraie fierté pour vous ?
Bah, c'est vrai que ça fait plaisir de savoir qu'elles viennent du club. Et puis de temps en temps, bah, c'est assez rare, mais elles reviennent pour voir les jouer justement. Et ça fait toujours plaisir de savoir que bah, elles ont joué sur ces terrains. C'est un peu des modèles, on peut dire, parce que bah, elles sont passées sur ces terrains et aujourd'hui, bah, elles en sont en équipe de France à faire des matchs un peu géniaux.
Ça donne de l'espoir pour les joueuses bah, comme nous ou même plus petites qui veulent jouer un jour au niveau professionnel ou être justement comme Iliana Rupert et Alexia Chéri, voir qu'elles sont passées par Coulaines et qu'en étant à Coulaines, on peut après changer de club et aller à un niveau professionnel.
Oui, il y en a plusieurs parmi vous qui souhaiteraient se consacrer entièrement au basket. Ah, gros blanc d'un coup. Ça n'a pas l'air d'être dans les plans de tout le monde.
Bah, honnêtement, non,
C'est pas trop dans nos projets. On sait qu'on n'a pas forcément le niveau pour un niveau professionnel. Enfin, il y a notre niveau qui est déjà un très bon niveau. Mm-hmm. Moi, personnellement, c'était déjà mon objectif de jouer en U18 France. Mais on ne voit pas, je pense, plus loin suite à notre physique ou suite à rien que nos aspects techniques qu'on n'a pas forcément. Donc, voilà.
Quelqu'un voulait ajouter quelque chose, pardon, j'ai cru voir.
Par exemple, celles qu'on a jouées du coup, l'année dernière qui étaient en Division 1, donc ce sont des joueuses qui sont en centre de formation, qui ont deux entraînements par semaine et qui, peuvent, par contre, devenir professionnelles, qui ont tout pour. Et nous, par exemple, on n'est pas en centre de formation, elles ont des équipes pro, puis elles sont grandes aussi, elles ont un jeu plus développé que le nôtre. Donc,
Je vous remercie en tout cas Romain Quette, entraîneur des U18 féminines du club JS Coulaines. Et merci également à toutes ces joueuses qui sont présentes en plateau. Et donc merci particulièrement à celles qui ont pris la parole, Clara, Lassa, Zia, Naeva, Julie et Margot. Et je vous souhaite évidemment bon courage pour la suite du championnat. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale. On sera avec le nouveau détenteur d'un nouveau record impressionnant. On écoute Gold Guns Girls de Metric. A tout de suite dans Sport en Sarthe. Merci à vous.
Merci. Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
De retour dans Sport en Sarthe, et ce samedi 22 février, Fabrice Didier s'est lancé dans un défi hors du commun, courir pendant 24 heures. Ça vous paraît fou? Pourtant, il l'a fait, et avec les yeux bandés. Alors pourquoi se lancer un tel défi? Eh bien pour un chien. Alors, on vous explique cette histoire un peu abracadabrantesque avec le principal intéressé. Fabrice Didier, bonjour.
Bonjour.
Alors, je précise tout de suite que ce chien pour lequel vous avez couru est un chien d'aveugle, éduqué par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Et vous êtes le parrain de ce chien qui s'appelle Uno. Alors, pourquoi lui dédier ce défi? Ce n'est pas le premier d'ailleurs, on y reviendra.
Non, ce n'est pas le premier défi. Alors après, pourquoi Uno? Alors, j'ai toujours eu envie de défendre une association telle que celle-ci. Et puis, j'ai suivi un peu cette association, m'a proposé le chien Uno. Et puis, du coup, c'est parti comme ça il y a pratiquement 2 ans maintenant, puisque il faut savoir que ça dure quasiment 2 ans, hein, une éducation. Uno a d'ailleurs obtenu, dans la même semaine que mon record, son officialisation en tant que guide, 2 jours avant que je fasse ma tentative. Uno a été déclaré officiellement guide chien d'aveugle, et donc il sera remis à une personne en déficience visuelle mi-avril, si je ne dis pas de bêtises, et il sera dans le Morbihan.
Et donc ce genre de défi que vous avez lancé, c'est pour encourager les gens à faire des dons à une cagnotte que vous avez ouverte pour lui?
Voilà, j'ai ouvert une cagnotte effectivement pour Uno avec un objectif qui était 3000 euros. Pour l'instant, on ne l'a pas encore atteint, mais elle est encore ouverte. On espère que les dons continueront jusqu'à probablement fin mars, fin avril pour clôturer la cagnotte. Et l'idée, c'est de promouvoir en fait cette association. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte excessivement cher, hein, l'éducation d'un chien. C'est quasiment entre 20 et 25 000 euros tout de même. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chien est remis gratuitement à une personne en déficience visuelle ou en problème de malvoyante.
Et l'association ne fonctionne que par don?
L'association fonctionne essentiellement par don. Il y a certainement d'autres financements qui rentrent en compte. Ça, je maîtrise pas, mais oui, essentiellement, les dons vont forcément avoir c'est une part importante du bon fonctionnement de l'association.
Et puisque cette course vise à aider la formation d'un chien d'aveugle, vous avez couru à l'aveugle. Alors, expliquez-nous un peu comment est-ce que vous vous dirigez, comment ça s'est passé?
Alors ça avait du sens pour moi de le faire les yeux bandés, puisque on défendait cette association-là, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc c'était pas mon premier défi pour Uno. Toujours est-il que on essaye de s'entraîner, de s'habituer, essayer de prendre des repères. Ça a été un petit peu compliqué sur mes premiers repères autour de la piste, puisque mes expériences précédentes en les yeux bandés, je me tenais à quelqu'un. La personne me guidait directement, sauf que là je n'avais pas le droit de le faire, puisque derrière il faut qu'on fasse valider effectivement ce record. Donc on va dire officieusement le record est battu maintenant, de manière officielle il faut envoyer tout le dossier auprès du Guinness pour pouvoir le valider avec un délai de 3 à 4 mois.
Et pourquoi c'est aussi long la validation?
Alors il y a deux possibilités, soit vous faites venir un juge directement et là il vous valide votre record quasiment en instantané, mais c'est aussi une question de budget, ça a un prix. Alors j'ai pas cherché à aller plus loin que ça parce que je savais que c'était excessivement cher, on n'a pas fait venir le juge. Par contre derrière il faut fournir énormément de preuves, c'est assez fastidieux en termes de dossiers à monter. Juste pour un exemple, il a fallu que je filme sur l'intégralité des 24 heures, il fallait filmer. Il fallait des témoins objectifs, des témoins chronométrage, il fallait donc mes chronos forcément de référence avec le GPS. Voilà, il y a plein de choses.
C'est très réglementé en fait.
C'est très très réglementé, des photos à l'appui, il y a tout un dossier avec énormément de preuves à faire.
Et alors vous arrivez, on va reparler un peu de votre expérience, comment vous l'avez vécu. Vous arriviez à garder votre sens de l'orientation même sur le temps long, parce qu'on imagine qu'avec de l'entraînement, effectivement, sur les premières minutes, ça ne doit plus être si compliqué, mais 24 heures quand même, c'est long.
Non, ça a été compliqué. Alors en fait, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase où heureusement, j'ai réussi en fait à constituer les 12 premières heures. Ça s'est très très bien passé. J'ai réussi à avoir un petit peu d'avance sur les temps qu'on avait prévu. Je suis même arrivé presque à un peu plus de 3 km d'avance.
Oui, pendant 12 heures, vous étiez confortable?
Pendant 12 heures, j'étais confortable. Et après, ça a commencé à se compliquer un peu. En plus, dans la tête, vous arrivez à 12 heures, vous vous dites, je suis qu'à la moitié. Et puis bah, là, vous commencez quand même à avoir quelques douleurs. Vous êtes au milieu de la nuit, vous sentez la fraîcheur. On a eu beaucoup de brouillard. J'ai pas eu très très froid, mais voilà, il y avait quand même une certaine fraîcheur. Et voilà, la deuxième partie a été plus compliquée à partir de 5h. Entre 5h et 6h du matin, j'ai commencé à avoir les douleurs qui ne m'ont pas lâché jusqu'à la fin. J'ai eu à 3h de l'arrivée, chose que je n'avais jamais eue, une grosse douleur à la cheville qui m'a handicapé jusqu'à la fin et je pouvais quasiment plus courir. Voilà, je veux dire, je trottinais vraiment, enfin je boitais, j'ai fait comme je pouvais, mais ça a été très compliqué.
Mais vous avez tenu bon malgré tout?
J'ai tenu bon malgré tout. Après, effectivement, avec le bandeau, c'est particulier. En termes de repères, on les a plus. On n'a plus de repères dans l'espace. Je n'avais uniquement que les repères auditifs, puisqu'on avait, on avait une petite sono, donc je savais quand je passais à côté, ça me permettait de comptabiliser. Voilà, je savais que j'avais fait un tour, puisque sinon, sans ça, enfin, dans le silence absolu, je suis complètement perdu, quoi. Complètement perdu dans l'espace. J'ai eu quelques phénomènes aussi où il fallait que je m'arrête. Alors, j'avais le droit d'enlever le bandeau à partir du moment où j'étais assis, où je m'arrêtais.
Ah, d'accord.
Voilà, j'ai pas gardé le bandeau.
Les pauses sont permises.
Voilà, les pauses sont permises. Si je devais me déplacer, je devais poser tout ce qui était chrono pour ne pas faire de pas supplémentaires. Par contre, effectivement, j'avais le droit d'enlever le bandeau et à plusieurs reprises, voilà, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait un petit peu. Du coup, là, je me posais, j'enlevais le bandeau 2-3 minutes et je pouvais repartir après.
Ouais, donc vous nous parlez de perte de repère, de vertige. Il n'y a pas une paranoïa qui peut naître aussi à un moment, parce que j'imagine qu'on a peur de tomber, de rencontrer un obstacle.
Il y a eu des trucs un peu bizarres dans ma tête, effectivement. Je ne vais pas parler d'hallucinations, mais voilà, juste à titre d'exemple, à un moment donné, en fait, à travers mon bandeau, j'avais l'impression que c'était tout blanc et que je courais dans la neige. Soit c'est une petite anecdote, mais j'ai vraiment eu l'impression de marcher sur la neige à un moment donné, parce que j'avais l'impression d'être sur un matelas neigeux. C'était assez curieux, donc peut-être c'était la fatigue dans mon imagination, je sais pas, mais voilà, j'ai eu des petits phénomènes un peu bizarres.
Le cerveau qui invente des choses pour pallier à l'obscurité, peut-être.
Oui, peut-être que oui, c'est peut-être effectivement ce genre de choses qui s'est produite, mais... C'était assez curieux.
Et donc, en tout cas, ça vous a permis d'expérimenter ce que vit quotidiennement un aveugle.
Oui, effectivement. Ouais, voilà, on n'a vraiment que les repères auditifs, puisque voilà, j'étais guidé que par la voix, puisque je n'avais pas le droit au contact physique. Et en fait, je pense qu'on arrive à développer d'autres sens avec lesquels on n'est pas forcément habitué, du coup, à l'oreille. Voilà, j'arrivais à ressentir quand j'avais le coureur à côté de moi qui me guidait, quand je m'éloignais, parce que bon, j'ai jamais couru droit, hein, c'était du zigzag en permanence, mais au niveau des pas, j'arrivais à savoir quand je m'éloignais, donc j'arrivais à me rectifier un petit peu, mais bon, c'était compliqué quand même. Mais voilà, tous les repères à l'oreille ont permis de développer d'autres sens. Et voilà, j'ai pu m'adapter aussi, le fait de le faire sans voir. J'ai développé d'autres sens. C'était plutôt intéressant comme expérience.
Ah oui, j'imagine. Et en tout cas, l'objectif pour vous, c'est au-delà de vivre cette expérience, c'était aussi de battre un record du monde. Le précédent était détenu en 2023 par l'anglais Alex Barnes. En 24 heures, les yeux bandés, il avait atteint 116,4 km. Et vous visiez samedi les 120 km. Alors, ouais. Mission accomplie, on l'a compris. Quel a été votre record à vous?
Alors, mon record, je ne sais pas, je pense que ce ne sera pas le 121 qui sera retenu parce que j'ai arrêté mon chrono à 24h01. Donc, on sera, je pense, légèrement en dessous. Mais voilà, l'objectif pour moi, il était de 120 km. Donc, je pense que ce sera retenu 120,5. À mon avis, on verra après avec le Guinness ce qu'ils vont décider. Mais voilà, l'objectif premier pour moi, c'était 120 km. J'ai dû passer le record, je pense, et je dis pas de bêtises, 1 heure ou 45 minutes avant la fin des 24 heures.
Et du coup, si le record est bel et bien homologué, vous allez figurer dans le prochain Guinness World Records.
Voilà, normalement, oui. Après, il y aura pas forcément la photo, mais au moins le nom qui sera inscrit sur un petit bout de page, peut-être en tout petit, mais voilà, on sera dans le Guinness.
Mais alors, même sans contrainte supplémentaire même sans la contrainte supplémentaire de la vue, courir 24 heures, c'est déjà un exploit en soi. On l'a vu d'ailleurs, apparemment, c'était pas facile. Et ce n'est pas le premier exploit que vous accomplissez. En fait, vous vous êtes déjà lancé d'autres défis de ce type. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, alors j'ai commencé les premiers défis en 2019 avec l'ultramarin. Alors j'ai pas fait l'ultra, hein, 175 km, mais la moitié, donc c'était 87 km. C'était d'ailleurs ma distance maximum Je n'avais jamais été au-delà, donc là, voilà, c'était déjà aussi l'inconnu de passer les 90 km, je ne les avais jamais réalisés auparavant. Donc voilà, j'ai commencé par l'ultramarin, j'ai ensuite enchaîné sur quelque chose qui a bien marché, qui avait fait un peu le buzz à ce moment-là, c'était le tunnel du Mans, avec pareil 24 heures où j'avais reproduit l'équivalent de l'Everest. Hein. Du coup, pour deux associations, donc je défendais l'association de Boucrissou.
Et vous le montiez, vous le descendez, c'est ça?
Voilà, je montais d'un côté, je passais de l'autre côté, et puis voilà, ainsi de suite, on faisait un U. Et voilà, donc j'avais fait ça pendant 24 heures. Et donc voilà, pour De Boucrissou et pour une école en Tanzanie. Donc ça avait plutôt bien marché. Hein, il y avait vraiment eu beaucoup de monde. J'ai été accompagné du début jusqu'à la fin, même pendant la nuit, il y avait énormément de monde. Et ensuite, c'était la pente de Gazonfier, où j'ai reproduit l'équivalent du Mont Blanc.
C'est l'escalier très raide qu'il y a dans le Vieux-Mans, c'est ça?
Alors j'ai fait donc le tunnel du Mans, c'est les escaliers, et la pente de Gazonfier, c'était la côte de Gazonfier avec une pente à 17 ou 18% à un moment donné. Et donc je l'ai monté, descendu, je l'ai monté 90 fois.
Ah oui, effectivement. Et c'est toujours en lien avec des associations du coup?
Oui, toujours. Voilà, moi j'ai toujours fait du sport de compétition jusqu'à un certain âge. Après, voilà, ça devenait compliqué en termes de compétition. Et puis, il fallait que je trouve quelque chose qui me raccroche à l'esprit compétition. Et puis, j'ai mêlé la partie compétition, sport et associatif. Voilà, c'est quelque chose dans lequel je me sens bien, j'y trouve mon compte, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc depuis 2019, j'essaye de me consacrer à ça. Après, tant que je pourrais le faire, je le ferai. Je pense qu'il y aura un moment donné où il faudra peut-être que je sois un petit peu plus raisonnable.
Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà prévu autre chose? Est-ce que vous imaginez pouvoir faire mieux ou pire? Je ne sais même pas trop. Est-ce que ce que vous avez accompli samedi 22 février?
Ah, c'est ce que je dis toujours, j'essaye toujours de trouver quelque chose, d'être dans l'originalité, c'est de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, parce que en général ça fait parler, ça attire les gens, et c'est peut-être un peu plus facile de défendre une association quand on fait quelque chose qui sort un peu du commun. Après, des idées, pour l'instant, je vais d'abord penser à récupérer, parce que là, honnêtement, je n'ai pas encore récupéré, hein, depuis une semaine, j'ai encore les jambes très très lourdes. Après on verra, on essaiera de trouver une autre idée, même si je commence à avoir fait le tour un peu de tout ce que je pouvais faire. Là, la barre, elle était quand même relativement haute avec un record du monde à la clé. Je sais pas vers quoi je vais pouvoir me tourner, mais je vais essayer d'avoir un peu d'imagination et puis des idées.
Ouais, vous envisagez d'autres défis que se fonder sur la course peut-être, ou vous voulez rester dans la course à pied?
Non, je suis plutôt dans la course à pied. Alors moi, j'aime bien les escaliers, effectivement. J'aime beaucoup. Moi, je suis un amoureux de la montagne, donc j'adore quand ça grimpe. Je sais pas. Je sais pas si je pourrais aller sur autre chose. On verra quoi. On verra. Pourquoi pas.
Merci Fabrice Didier de nous avoir en tout cas raconté cette expérience. Où peut-on trouver la cagnotte pour aider le chien Uno?
Alors c'est https://bit.ly/pouruno attaché. Donc voilà, c'est le lien pour la cagnotte. Elle est encore ouverte. Donc aujourd'hui, on était. Alors il y a 1000. J'ai dit des bêtises. Il y a 818 euros au jour d'aujourd'hui. Et j'ai de l'argent que j'ai récolté en liquide durant le week-end qu'il faudra que je rajoute. On devrait approcher les 1200 euros au jour d'aujourd'hui.
Et donc on précise aujourd'hui le 28 février pour ceux qui nous écoutent en podcast ou en rediffusion. Merci beaucoup Fabrice Didier.
C'est moi qui vous remercie.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioalpa.com dans les infos de la rédaction. Le prochain épisode de Sport en Sarthe sera vendredi 7 mars. Et d'ici là, on se retrouve lundi 3 mars pour C'est d'actu. Et ce sera sur Radio Alpa, bien évidemment.